Les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
La légitimité, on l'a vu, depuis le 7 novembre, il y a eu beaucoup de manifestations en ma faveur. Je ne sais pas si vous avez vécu cette période. Donc la légitimité, je l'ai de par la Constitution.
Ça veut dire que quand tu as les élections présidentielles la prochaine fois, on a vu aujourd'hui que vous avez élaboré un pacte national avec les partis d'opposition. Il n'y aura donc pas un candidat unique à la présidence de la République.
Pourquoi un candidat unique? Pas du tout. C'est ouvert à toutes les sensibilités du pays.
Il faut dire que depuis un an qu'il a renversé le vieux combattant suprême, le général, ancien monsieur sécurité, s'est mué en démocrate, en homme du peuple. Il a d'abord pour lui le soutien de la population tunisienne qui lui est reconnaissante de l'avoir débarrassé du président Habib Bourguiba, qui en raison de son âge n'était plus tout à fait lucide pour gérer le pays. Mais il a également multiplié pendant les premiers mois de son règne des gestes d'apaisement et de modernisation qui séduisent à la fois les jeunes, les étudiants, mais aussi les femmes et les religieux que combattait ardemment le régime précédent. Suite aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Zine El Abidine Ben Ali, le second président de la Tunisie. Si le nouveau président qui a renversé dans la nuit du 7 novembre 1987 déconstruit certains aspects de l'héritage du président Bourguiba, il tient néanmoins à conserver quelques acquis, notamment la place, le statut de la femme.
On affirme que la cause de la femme est notre cause et que le code du statut personnel est un grand acquis de l'indépendance et qu'il est irréversible.
En cette première moitié de l'année 1988, c'est toute la communauté internationale qui, avec les Tunisiens, semble saluer les actions du nouveau président. C'est donc un hôte de marque qui arrive en visite officielle en France après 10 mois à la tête de la Tunisie. Il vient renforcer les liens avec Paris, mais également parler d'économie.
Les facilités financières et fiscales offertes par la Tunisie aux investisseurs nationaux et étrangers font de notre pays un partenaire de choix pour engager et réussir cette nouvelle forme de coopération. Notre espoir est que le gouvernement français s'emploiera de son côté à sensibiliser les opérateurs et hommes d'affaires à ces possibilités.
Michel Rocard, Premier ministre français.
Il y a fort longtemps que beaucoup d'entreprises françaises travaillent en Tunisie. Beaucoup d'entre elles souhaitent y développer leurs activités ou leurs investissements. L'excellent climat que connaît la Tunisie aujourd'hui, rassérénée, réconciliée avec elle-même, avec une démocratisation activement conduite, tout cela crée un climat qui est extrêmement favorable.
Ben Ali tient à donner des gages à ses partenaires occidentaux, mais également à rassurer ses voisins du Maghreb.
Nous avons une vocation maghrébine, arabo-musulmane et méditerranéenne. Nous avons, avec les pays du Grand Maghreb, nous avons engagé un processus pour l'édification d'un grand Maghreb qui, demain, Maghreb uni, pourrait être un interlocuteur valable pour la CE qui préfère traiter avec les ensembles.
Au monde musulman qui s'interroge, Ben Ali va aussi jouer la séduction. Il veut le calmer, le rassurer après la violente chasse dont il a été victime et dont il était d'ailleurs un exécutant zélé.
Vous savez, les Tunisiens sont des musulmans et des musulmans sunnites. Tolérant, pas fanatique, ouvert au modernisme. Il y avait effectivement un problème avant le 7 novembre. Problème dû au comportement officiel, je dirais, officiel, peu respectueux de la religion. Donc, nous avons pris certaines mesures pour rendre à l'islam la place qui nous revient dans un pays musulman, d'une part. Et d'autre part, j'ai affirmé à plusieurs reprises dans mes discours que la Tunisie appartient à tous ses enfants, sans exclusive. C'est peut-être ça qui a un peu calmé les esprits.
En cette année 1988, le chef de l'État en visite à Paris est sur un nuage. Et même ses compatriotes vont lui réserver un accueil particulièrement chaleureux.
Accueillie au rythme de l'hymne national tunisien, la rencontre entre le président Ben Ali et la communauté tunisienne de Paris a été du délire. L'hôtel intercontinental était littéralement envahi par plus de 500 Tunisiens et Tunisiennes qui brandissaient des portraits de leur chef d'État. Des portraits imprimés sur une brochure éditée pour la circonstance par les services consulaires tunisiens. Dans un assez bref discours en arabe, Ben Ali a rendu hommage aux immigrés artisans de liens culturels entre la Tunisie et la France. Il a également rendu un hommage vibrant au président français qui avait tenu à l'accompagner. « Nous sommes honorés », a-t-il dit, « de la présence de François Mitterrand, que nous considérons comme l'un des plus grands hommes d'État ». Par ailleurs, Ben Ali a annoncé deux nouvelles mesures en faveur des immigrés. D'abord, l'ouverture de nouveaux consulats plus proches des lieux où ils vivent. Ensuite, la réduction de 50% des taxes sur les véhicules importés en cas de retour définitif au pays. Puis ce fut au tour de François Mitterrand de prendre la parole. Maître dans l'art de l'improvisation, il a électrisé la foule qui scandait « Mitterrand président ».
Zine El Abidine Ben Ali, le nouveau président, prend en main le PSD, le Parti Socialiste Nestorien, renforçant sa cohésion, et il le transforme en Rassemblement Constitutionnel Démocratique, RCD. Il entame une restructuration des institutions. La constitution est amendée et supprime la présidence à vie. Désormais, le nombre de mandats est limité à 3. Puis une loi sur les partis politiques est adoptée. De nouveaux mouvements sont reconnus alors que des tribunaux d'exception et la fonction de procureur général sont supprimés. Il opère même une ouverture vers les islamistes en libérant certains leaders condamnés un an et demi plus tôt. Ghanouchi va ainsi retrouver la liberté.
Après quelques mois, le 6 novembre 1988, il m'a reçu au palais de Carthage et il m'a promis assez clairement qu'il reconnaîtrait notre mouvement.
En réalité, le nouveau président semble avoir apaisé le climat politique, notamment en assurant une ouverture vers les associations, dont la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Ben Ali établit même clairement des contacts avec les partis d'opposition. Un pacte national rassemblant les différentes formations politiques et sociales du pays, à l'exception des islamistes, est signé le 7 novembre 1988. Il engage les signataires au respect de l'égalité entre les citoyens des deux sexes, des acquis du code du statut personnel, des principes républicains et un refus d'utiliser l'islam à des fins politiques. Des mesures qui séduisent et qui fragilisent, de fait, les mouvements islamistes. Puisque dans le même temps, il fait libérer plus de 2000 prisonniers islamistes. Il va reconnaître l'union des étudiants islamistes à l'université. Elle va devenir l'un des mouvements de gauche les plus actifs. Et pour bien montrer sa foi religieuse, Ben Ali va effectuer son pèlerinage à la Mecque. Et le Haut Conseil islamique est renforcé dans le pays. À la télévision, on interrompt désormais les programmes à l'heure de la prière. Une révolution en somme en Tunisie. Abdel Fattah Mourou, un des leaders islamistes.
Il voulait enlever le tapis de sous les pieds des islamistes. Il pensait que des petits changements feraient que les gens lui feraient plus confiance qu'aux islamistes. Le régime précédent avait clairement été hostile à l'islam. Il a donc décidé de changer de direction pour prouver qu'il était un véritable réformateur.
À la date anniversaire du renversement du régime Bourguiba, un juriste islamiste, Nourdin Bahili, écrit au nom du mouvement Ennahda deux documents de principes politiques appelés la Charte nationale. Ces documents sont écrits par Mohamed Chafi, le président de la Ligue des droits de l'homme. Documents dans lesquels il est dit que la Tunisie est une nation démocratique pour tous ses citoyens et qu'elle respecte les règles sacro-saintes de l'islam. Le régime fait pression sur les différents partis afin qu'ils signent cette charte. Avril 1989, 2 700 000 Tunisiens sont appelés aux urnes pour un scrutin anticipé à la fois présidentiel et législatif.
Élection présidentielle maintenant et législative également aujourd'hui en Tunisie. C'est une étape dans le processus de renouveau de la démocratie voulu par le successeur de M. Bourguiba que vous voyez actuellement défiler, le président Ben Ali qui malgré tout reste le candidat unique au poste de président, soutenu toutefois il faut le dire par la majorité et l'opposition.
Kémé Chamari, du mouvement social-démocrate.
Pour les premières soi-disant élections démocratiques, il y avait deux urnes. L'une pour les bulletins rouges, pour Ben Ali, et l'autre pour les bulletins en faveur du front. Donc, où était passée la démocratie multipartite?
Ghannouchi, le leader islamiste.
Prendre part aux élections avec seulement une liste et fixer des quotas avant, c'était juste une mise en scène politique. Ahmed Mestiri avait raison de refuser d'y prendre part. C'était complètement antidémocratique. La démocratie sous-entend une véritable compétition.
Slaydin Jourchi, journaliste et activiste des droits de l'homme.
Par la suite, chaque parti avait sa propre stratégie. Nous avions remarqué que les leaders du mouvement islamique étaient prêts à participer avec un nombre limité de listes. Mais leurs militants se sont mobilisés, et chaque groupe a alors dressé une liste. Le mouvement est devenu alors le seul rival du parti au pouvoir dans à peu près toutes les circonscriptions. Il est apparu comme une réelle force.
Le parti RCD au pouvoir va déployer tous les moyens légaux et illégaux pour remporter ce scrutin. Le mouvement du président va transporter des populations dans des bus publics pour les amener voter, distribuant sans gêne de l'argent aux électeurs qui prenaient l'engagement de voter pour eux. Kemesh Chamari du mouvement social-démocrate.
L'objectif était clairement de nous humilier. Et c'est ce qui s'est passé. Donc Ahmed Mestiri, s'étant senti trahi, s'est retiré.
À ce scrutin, les candidats de l'opposition, notamment les islamistes inscrits comme indépendants, obtiennent presque 14% des suffrages. Ils vont même se tailler des fiefs avec 30% dans quelques quartiers populaires. Le RCD, le Rassemblement Constitutionnel Démocratique, parti au pouvoir, remporte 141 sièges de députés. Mais les listes indépendantes, dont 19 sur 22 étaient patronnées par les islamistes, obtiennent plus de 13%. Cette poussée islamiste se réalise essentiellement au détriment du mouvement des démocrates socialistes, MDS, principal parti d'opposition sous Bourguiba, qui ne réunit que 3,76% des suffrages. Son président, Ahmed Mestiri, dénonce des irrégularités que dément formellement le ministre de l'Intérieur. L'abstention se situe autour de 23% des électeurs inscrits, mais atteint près de 42% à Tunis. C'est dire. Le président Ben Ali, quant à lui, candidat unique à la présidence, va obtenir un des scores fleuves qui avait cours dans cette période dans le pays. Il est élu à 99,27% des voix. Un mois après ce scrutin, c'est la fin de la lune de miel entre le pouvoir et les islamistes, puisque ces résultats vont provoquer des violents incidents dans le quartier de Sapsouika, en plein centre de Tunis. Violence attribuée aux islamistes d'Ennahda. Le leader islamiste Ghannouchi décide donc de quitter le pays. Il obtient l'asile à Londres. Légitimé par les urnes, Ben Ali va désormais se sentir plus libre. Il veut imprimer sa marque. Mohamed Chafi, l'auteur, le cerveau de la charte nationale, est nommé ministre de l'éducation et des sciences. Mohamed Chafi est l'ennemi juré des islamistes. Il va donc procéder à une profonde réforme scolaire où la religion n'occupe pas la place centrale. Un sujet de colère pour les islamistes. Abdel Fattah Mourou, un des principaux leaders islamistes.
Je ne considérais pas ce qu'avait fait Chafi, Dieu à son âme, comme une réforme. Il résistait au système islamique alors en place grâce à une politique qu'il appelait « assécher le printemps ». Il coupait les liens entre l'islam et la jeunesse dans les livres scolaires en y enlevant tout ce qui était relatif aux croyances et aux rites. Et il a fait de l'islam une façon d'appartenir à la civilisation, aux valeurs humaines.
La crise entre Ben Ali et les islamistes va connaître un tournant décisif dans le début de la décennie 90, avec la montée, à la porte même de la Tunisie, d'un mouvement islamiste radical qui prend le pas sur les politiques en Algérie. Le FIS, le Front islamique du Salut.
Le mouvement islamiste algérien s'est rapidement développé à la fin des années 80. Plusieurs facteurs expliquent cette évolution. Le malaise de la société, après notamment les émeutes sanglantes de 1988 dans la capitale, une certaine usure du FLN au pouvoir depuis l'indépendance en 1962. La crise économique avec son cortège de chômeurs. Nombreux ont été les Algériens qui ont cherché à se tourner vers les barbus. Le président Chadli ayant autorisé le multipartisme, le FIS, légalisé, a pu se structurer. Ceux qui se présentent comme des rédempteurs proposent un régime islamique à leur tête un homme de 58 ans, Abassi Madani, professeur de faculté.
Mais c'est un autre mouvement plus lointain, celui-là, qui va mettre en ordre de bataille les islamistes, qui sont désormais plus confiants.
Madame, Monsieur, bonsoir. Un journal spécial ce soir consacré en grande partie au coup de force de Saddam Hussein. Ce matin, le président irakien a lancé plus de 300 de ses chars à l'assaut du Koweït. Alors qu'il est malgré quelques poches de résistance, il semble que l'invasion soit en phase d'achèvement. L'ambassade du Koweït à Bruxelles annonce que les combats auraient fait au moins 100 morts. L'Irak aurait même déjà installé un gouvernement à sa solde. L'URSS et l'Occident condamnent l'invasion. Washington gèle les avoirs irakiens et suspend ses relations commerciales. Moscou suspend, elle, ses livraisons d'armes à Bagdad. Les pays arabes restent prudents. Ce soir, Saddam Hussein apparaît donc comme le maître du jeu. D'ailleurs, tout joue en sa faveur. On le voit sur cette carte, l'Irak, son pays, 16 millions d'habitants, a la plus importante armée de tous les pays arabes, 1 million d'hommes, face au petit Koweït qui est ici, 2 millions d'habitants, dont 60% d'émigrés et seulement 20 000 soldats. L'enjeu est donc clair. Saddam Hussein, à la tête d'un pays qui croule sous les dettes depuis ses 8 ans de guerre avec l'Iran, s'est lancé à l'assaut d'un véritable coffre-fort. C'est le Koweït, qui a pour lui 2 siècles de réserves de pétrole et pour plus de 100 milliards de dollars placés à l'étranger. Au passage, le président irakien assoit son ambition sur toute la région. Le résumé d'une invasion est clair et joué d'avance. Véronique Tavo.
Une armée hyper entraînée, puissante et habituée au combat. Les blindés irakiens n'ont pas rencontré d'obstacles sur leur route vers Koweït City. 8 ans de conflit avec l'Iran, les troupes de Saddam Hussein ont retenu les leçons. Efficacité, force, 100 000 hommes mobilisés pour cette opération coup de poing. Cette nuit, en quelques heures, le Koweït était envahi.
Tout commence en août 1990, lorsque le Koweït, qui était autrefois une terre irakienne, mais qui après la colonisation a été rendu libre par les Britanniques, est envahi par l'Irak. Les Irakiens vont au Koweït sous prétexte d'aider à la mise en place d'un gouvernement provisoire. Mais en réalité, Saddam Hussein et l'émir koweïtien Jaber al-Sabah se disputent les droits du pétrole. En effet, Saddam Hussein souhaite augmenter le prix du pétrole pour faire plus de bénéfices, et notamment pour financer la guerre Iran-Irak qui se déroule à ce moment-là. Les troupes de Saddam Hussein s'y installent et proclament que le Koweït leur appartient donc avec ses ressources. L'ONU ordonne à l'Irak de retirer ses troupes du territoire koweïtien. Mais les Irakiens refusent d'obtempérer. Alors les alliés, c'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et la Grande-Bretagne principalement, se préparent à une intervention. Cette opération défensive est nommée « bouclier du désert ». Elle consiste aussi à protéger l'Arabie Saoudite d'une éventuelle menace pour ses puits. Les négociations s'éternisent, tandis que des milliers de soldats alliés sont installés dans le désert en attente d'intervention. Le 17 janvier 1991 est lancée l'opération Tempête du désert, dirigée par le commandant général américain Schwarzkopf, après l'expiration de l'ultimatum posé par l'ONU pour l'Irak. Commencent alors les bombardements. Cette attaque des forces occidentales accompagnée de certaines armées du Golfe et d'Afrique va susciter de vives réactions dans certains pays arabes, notamment dans la communauté musulmane comme en Tunisie. Abdel Fattah Mourou, un des principaux leaders islamistes tunisiens.
Je n'ai jamais été convaincu par la position de Ghannouchi et je considérais que attaquer l'Irak était une vraie invasion. C'était une entorse à la conception même de l'État et un recul des acquis de la civilisation qui exige le respect de la souveraineté de toute nation. Et le droit international est basé sur ce principe.
Cette invasion de l'Irak va donner l'occasion aux islamistes de gagner la rue. Ils manifestent en force avec des grèves et des affrontements violents avec la police dans les universités. La terreur gagne alors le campus de Tunis, de Sousse et de Kairouan. La Tunisie s'apprête en cette année 1991 à vivre des moments difficiles parce que les islamistes sont plus que jamais décidés à sortir de leur isolement. Comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Zine El Abidine Ben Ali. Rendez-vous donc juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale pour la suite d'archives d'Afrique. Restez à l'écoute.
Les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Vous savez, les Tunisiens sont des musulmans et des musulmans sunnites, tolérants, pas fanatiques, ouverts au modernisme. Il y avait effectivement un problème avant le 7 novembre. Problème dû au comportement officiel, je dirais, officiel, peu respectueux de la religion. Donc, nous avons pris certaines mesures pour rendre à l'islam la place qui nous revient dans un pays musulman.
Après avoir légitimé son pouvoir en passant par les urnes dans des élections législatives et présidentielles contestées malgré tout par l'opposition, notamment islamiste, qui désormais compte des représentants au sein de l'Assemblée, Zine El Abidine Ben Ali est en ce début de la décennie 90 résolument tourné vers la réforme du système politique et éducatif tunisien, avec notamment sa profonde réforme scolaire où la religion n'occupe pas la place centrale. Un sujet de colère pour les islamistes. Abdel Fattah Mourou, un des leaders islamistes de l'époque.
Il voulait enlever le tapis de sous les pieds des islamistes. Il pensait que des petits changements feraient que les gens lui feraient plus confiance qu'aux islamistes. Le régime précédent avait clairement été hostile à l'islam. Il a donc décidé de changer de direction pour prouver qu'il était un véritable réformateur.
Mais c'est un autre événement a priori plus lointain qui va définitivement exacerber la brouille entre le président Ben Ali et les islamistes en ce début d'année 1991. L'opération Tempête du désert, lancée par la coalition internationale formée par les États-Unis d'Amérique, la France, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et la Grande-Bretagne principalement, pour chasser l'Irak du Koweït qui l'a envahi un an plus tôt. Abdel Fattah Mourou, un des leaders islamistes tunisiens.
Je n'ai jamais été convaincu par la position de Ghannouchi et je considérais que attaquer l'Irak était une vraie invasion. C'était une entorse à la conception même de l'État et un recul des acquis de la civilisation qui exige le respect de la souveraineté de toute nation.
Comme la majorité de la population, Ben Ali est plutôt un supporter de Saddam Hussein dans cette aventure. En réalité, pour les islamistes déjà très remontés contre le régime Ben Ali et très tentés par l'expérience du fils en Algérie voisine, cette invasion de l'Irak par les forces alliées est une opportunité pour prendre la rue. Dans une extraordinaire démonstration contre la guerre organisée par le pays, Ennahda se fait entendre. C'est le début des grèves et manifestations, d'abord dans les universités, avec des affrontements violents avec la police. Les campus deviennent des grands lieux de contestation. « 17 février 1991, 4 heures du matin. Profitant de l'obscurité, un groupe d'islamistes occupe un bâtiment public de Tunis qui symbolise le gouvernement. » Il y met le feu. Seulement, dans l'opération, deux gardiens, pieds et mains liés dans le bâtiment, sont grièvement brûlés. L'un va succomber à ses blessures. C'est l'escalade. Rachid Ghannouchi, le leader islamiste.
Le régime voulait transformer cet événement en fait divers, une base, une raison pour faire une guerre totale contre Ennahda.
En septembre 1991, les autorités annoncent la découverte d'un plan islamiste qui visait à prendre le pouvoir. C'est le début de nombreuses arrestations dans le milieu d'Ennahda, mais également de l'armée et de la police qui ont été largement infiltrées par le mouvement. Les procès vont se tenir durant l'été 1992.
Ce procès est un règlement de compte politique par des moyens non politiques. Supposons que notre mouvement à Nahda soit effectivement extrémiste, violent, terroriste et intégriste. Peut-on dire la même chose pour la Ligue des droits de l'homme quand on la dissout Est-ce l'Union générale tunisienne des étudiants une organisation terroriste lorsque le pouvoir l'a liquidée? Et les autres partis non reconnus sont-ils des intégristes violents quand on les poursuit? Est-ce M. Ahmed Ben Salah et Assid sont des terroristes? En réalité, il y a en Tunisie un complot contre toute opposition sérieuse. Chaque fois qu'il y a une véritable opposition, on la liquide. Il y a en Tunisie une opposition et une démocratie de décor pour vendre le pays à l'Occident, pour qu'on dise qu'il y a en Tunisie un pluralisme, alors qu'en fait, il y a un pouvoir personnel et un régime policier.
Dans la même période, les visas pour les étudiants islamistes sont suspendus. Abdel Fattah Mourou, leader islamiste.
Ça m'a perturbé à cette période. J'étais le chef du bureau exécutif et politique du mouvement, et pour cela j'étais confronté à des situations réelles. J'ai vu des jeunes hommes se faire arrêter, je leur demandais alors s'ils faisaient partie du mouvement, et ils me répondaient que oui. Je n'étais pas au courant de ce plan, de leur donner la liberté d'agir comme ils le voulaient. Ça fut une grande erreur du mouvement, et nous avons dû en tirer les conséquences.
Rachid Ghannouchi, leader du mouvement islamiste.
Cette stratégie a causé des perturbations. L'État a agressé et supprimé des leaders qui auraient dû contrôler tout ça.
C'est le début des arrestations massives d'islamistes de procès avec de lourdes peines. Les dénonciations des ONG de défense des droits de l'homme ne vont pas parvenir à calmer la colère du régime puisque les autorités invoquent le devoir du gouvernement de garantir la paix sociale et la stabilité des institutions nécessaires à la bonne conduite de tout processus démocratique. Amer Larayed, un des leaders islamistes.
En fait, le régime tunisien ne se contentait pas de poursuivre les opposants à l'intérieur de la Tunisie. Il essayait de les poursuivre, de les kidnapper et de les arrêter dans les pays aux alentours. Il mettait aussi la pression sur ces pays où les opposants étaient allés. Ils utilisaient tous les moyens à leur disposition pour les faire revenir.
La répression va être sévère. Les islamistes vont connaître la torture et le bagne. Mais en même temps qu'il durcit le ton contre le mouvement, Ben Ali poursuit timidement, c'est vrai, le processus de démocratisation et de normalisation de la vie politique. Ainsi, un conseil constitutionnel est créé et le code électoral est révisé à plusieurs reprises. Afin d'accroître la représentation parlementaire de l'opposition légale, un quota minimum de 20% des sièges de la Chambre des députés lui est réservé. En 1992, 4 ans après son divorce d'avec sa première épouse, Naima, la fille de son mentor, le général Kefi, à qui il doit sa fulgurante ascension, Zine El Abidine Ben Ali convole cette fois-ci en juste noces avec Leila Travelsi, femme d'origine très modeste comme lui, et sans grande éducation. Une femme qui va très rapidement prendre une place considérable auprès de son président de mari. Elle se mêle de tout, touche à tout. Safi Chahed, ancien ministre de Bourguiba.
Elle était forte et elle était très jalouse. Elle l'aimait et elle faisait tout pour être avec lui. Et lui, il faisait pareil.
À peine installée au palais, la nouvelle première dame qui entretenait des relations depuis plusieurs années déjà avec le chef de l'État va s'investir dans de nombreux secteurs. Avec sa famille, elle veut rapidement se mettre à l'abri du besoin. Façon de parler. Les scandales éclatent très rapidement autour de ses activités. Il faut dire qu'elle ne s'encombre pas de détails. Elle est dans toute l'économie.
Le grand absent de ce procès, c'est le propre frère du président tunisien, Moncef Ben Ali, soupçonné d'être le convoyeur de fonds et donc...
The scandals in the president's family started to increase.
À peine entré dans la galaxie que dès 1992, Leila Ben Ali est déjà éclaboussée par des scandales. Le frère même du président, Moncef Ben Ali, est arrêté en France pour une histoire de drogue que certains vont baptiser la « Couscous Connection ». Slim Baga, journaliste spécialiste des questions de corruption.
Kent Leila Fellul fait l'immobilier, la Mlek al-Aqariya.
Au début, elle était dans les biens immobiliers à l'étranger ou en Tunisie, spécialement à Carthage, La Marsa et Gamart. Elle y allait tous les après-midi, quelquefois avec Abdul Wahab Abdallah, et elle choisissait cette maison ou cette villa. Elle disait au propriétaire, prends l'argent et va-t'en. Et s'il ne voulait pas, il le virait et prenait la maison. Il la confisquait, tout simplement. C'est ce que Leila faisait au début, c'est tout, rien d'autre. Mais après la mort de Moncef, Elle a pris confiance et elle allait au cercle Salon Bleu tous les matins, le Salon Bleu à Carthage. Là, ils se mettaient d'accord pour leurs activités de la journée ou de la semaine.
L'épouse du président est donc désormais à la tête d'une véritable mafia au sommet de l'État. Mais Ben Ali, carrure solide, toujours vêtu avec une stricte élégance, bel homme aux cheveux noirs, qui chaque année plante un arbre, est de plus en plus puissant et craint. Il tient fermement la barre du navire Tunisie. Le 20 mars 1994, Ben Ali est candidat unique à sa propre succession.
La journée dans l'ensemble s'est déroulée dans le calme, mais après avoir circulé dans plusieurs bureaux de vote, force est de constater qu'il était bien difficile de faire respecter les consignes données par le président Ben Ali. Concernant le respect du secret du vote, il a fallu à plusieurs reprises l'intervention de responsables de bureaux pour ordonner aux électeurs de prendre tous les bulletins et de faire leur choix dans l'isoloir. C'était là une des principales revendications des partis de l'opposition. Par ailleurs, les délégués de liste de l'opposition, habilités à contrôler le déroulement du scrutin, n'ont pas réussi à être présents partout. Deux explications. D'une part, les partis d'opposition mal structurés ne sont pas implantés sur tout le territoire. D'autre part, certains, comme l'a relevé le secrétaire général de la Commission internationale de juristes, certains donc ont eu peur de représailles. Enfin, la Ligue des droits de l'homme, constituée en observatoire, ne pouvait pas être présente dans les 12 000 bureaux de vote que compte le pays par manque de volontaires. Adala Benrad, Tunis, RFI.
Il faut dire que pour consacrer le pluralisme politique, un amendement constitutionnel spécial exempte les candidats à la présidence de l'obligation constitutionnelle de parrainage des élus. Malgré ces couacs évoqués par Adala Benrad dans le déroulement du scrutin, Zine El Abidine Ben Ali est élu pour un nouveau mandat à 99,21% des voix.
Bonjour, une participation des plus massives et déjà des chiffres sans surprise pour les premiers résultats des élections présidentielles et législatives qui se sont déroulées hier en Tunisie. Comme prévu, en effet, le parti au pouvoir, le RCD, le Rassemblement Constitutionnel Démocratique, et le président Ben Ali font plus qu'un tabac. Rida Bouguesi.
Les premiers résultats du double scrutin présidentiel et législatif portant sur plus de 50% des circonscriptions électorales dégagent un très fort taux de participation de l'ordre de 92% contre 76% seulement lors des dernières élections d'avril 89. Il ressort aussi de ces résultats que le président Ben Ali, seul candidat au présidentiel, est plébiscité à 99,95% des voix. Dans la circonscription de Tataouine, une région saharienne de l'extrême sud du pays, le président tunisien obtient même le score sans appel de 100% des suffrages. Par ailleurs, et aux législatives, le RCD, le parti au pouvoir, est en passe de réaliser un raz-de-marée avec plus de 95% des voix. Des chiffres interprétés à chaud ce matin par le ministre tunisien de l'Intérieur, Abdallah Kalal, comme étant le fruit d'une politique sociale efficace et d'une action sans relâche, menée selon lui depuis 7 ans dans tous les domaines par le pouvoir en place, au profit notamment des régions démunies, dans le sens de l'amélioration de la qualité de vie du Tunisien. Assuré malgré tout de faire son entrée au Parlement avec 19 sièges fixés d'avance, l'opposition n'a pas encore officiellement réagi à ces résultats en raison de leur caractère partiel. Les chiffres définitifs devront être fournis par le ministre de l'Intérieur lors d'une conférence de presse prévue cet après-midi. Rida Bouguesi, Tunis, RFI.
Ben Ali est conforté. Il plaît également, ce chef d'État tout sourire qui se passionne pour les nouvelles technologies, que l'on montre assis derrière des ordinateurs. Ce président qui visite les quartiers pauvres, qui serre les mains. Slahedine Jourchi.
La seconde moitié des années 90 était considérée comme la période la plus sombre de l'histoire politique et contemporaine de la Tunisie. C'était la dictature. La sécurité était la priorité, était l'essentiel. La peur dominait. La tyrannie et l'hypocrisie sociale dominaient.
Amer Larayed, un des leaders islamistes.
Il y a des forces fondamentales dans notre société. Il y a l'Union Générale Nationale,
le mouvement étudiant et il y a le mouvement islamiste. Ils ciblaient l'union pour les affaiblir, les étudiants en les attaquant et les islamistes en les déracinant.
Taoufik Ben Brik, journaliste tunisien.
En regardant les faits pour lesquels ils m'ont banni, c'est-à-dire avoir écrit à propos du vent ou de la pluie, moi j'ai écrit sur les gens qui voulaient m'empêcher d'écrire.
Taoufik Ben Brik va devenir l'un des journalistes les plus critiques du régime. Il va payer le prix fort pour cette rébellion, comme nous allons le voir par la suite. Si en interne, très prudemment, les Tunisiens dénoncent ce régime policier, cette situation sécuritaire, sur le plan international, la Tunisie apparaît comme un pays en plein essor. Avec ses images de cartes postales, ses plages et ses hôtels où arrivent par vagues les touristes du monde entier, Ben Ali apparaît comme un président moderne, résolument tourné vers le futur. Surtout que les capitaux affluent et les banques fleurissent. C'est sur cette image que le président Jacques Chirac lui déroule le tapis rouge lors de sa visite officielle en France en octobre 1997.
Il faut encourager des processus qui permettent des progrès réels dans des situations réelles à un moment donné. D'où une attitude à la fois d'accueil, d'amitié, de respect, d'ouverture et d'encouragement, précisément à partir d'une situation qui a été très, je crois, consolidée ces dernières années sur le plan du risque intégriste et d'autre part de l'économie et qui devrait permettre à la Tunisie maintenant de franchir de nouvelles étapes. Adopter par rapport à un certain nombre de pays qui nous sont proches mais dans lesquels la situation politique n'est pas encore ce que nous pourrions complètement souhaiter, une attitude à la fois d'amitié, de compréhension, d'encouragement, d'incitation et faire entrer des pays qui sont confrontés à des problèmes sérieux. Il ne faut pas traiter avec désinvolture depuis chez nous. Il faut les faire entrer dans des processus positifs, encourageants et constructeurs.
Mais les opposants au régime en exil ne sont pas pour autant muselés. Ils dénoncent ce qu'ils considèrent comme une supercherie.
Tous les opposants sont visés. J'ai été moi-même séquestrée pendant 2 ans dans le village où j'habitais. Pendant 2 ans, je n'ai pas pu quitter le territoire tunisien et j'ai dû employer des moyens, disons, très personnels pour quitter la Tunisie. Vous voyez en moi une islamiste Je crois que non. Et j'ai défendu surtout les droits des enfants qui ont été en prison en Tunisie, des gamines qui avaient 14 et 15 ans, qui étaient en prison pour des choses vraiment qui c'était vraiment futile. Je suis un peu émue là parce que j'exprime un peu mal ce que je ressens. Mon fils qui avait à peine 15 ans a fait de la prison, disons qu'il voulait faire pression sur leur père. Nous avons quand même réussi à le faire sortir de prison et à quitter la Tunisie. Et Dieu merci.
On est loin de l'accueil de 1988 où les Tunisiens de Paris lui avaient réservé un accueil des plus chaleureux. Et même si le président Jacques Chirac lui ouvre la porte de l'Élysée, les représentants du peuple, les députés, du moins certains d'entre eux, vont clairement exprimer leur désamour.
Certains ont des positions tranchées. Les députés écologistes, par exemple, ont décidé tous les 6 de boycotter la réception offerte à l'hôtel de Lacet par Laurent Fabius, président de l'Assemblée nationale, en l'honneur du chef de l'État tunisien. Le président du groupe communiste a également fait savoir qu'il n'avait pas assisté à la réception. Absence remarquée aussi celle du socialiste Jack Lang, président de la Commission des affaires étrangères à l'Assemblée.
C'est un pays qui depuis de nombreuses années a accompli des progrès sur le plan économique, qui en particulier a réussi à donner aux femmes des droits qu'elles n'ont dans aucun autre pays d'islam. Il faut noter aussi que les Tunisiens ont réussi à endiguer l'adhérisme. Pour autant, ce n'est pas une vraie démocratie. Je préférais ne pas participer à ces cérémonies. À chacun d'exprimer son sentiment.
Cette pression nouvelle de la communauté internationale va-t-elle contraindre le président Ben Ali à démocratiser son pays ? Est-il prêt à une plus grande ouverture qui vienne conforter son progrès sur le plan économique ?
En Tunisie, le président Ben Ali a annoncé une prochaine modification de la Constitution. Ceci afin de permettre à l'opposition de présenter des candidats à la prochaine présidentielle. Selon cette modification, les chefs des partis légaux pourront postuler à l'élection, à condition toutefois qu'ils soient à la tête de leur parti depuis au moins 5 ans.
L'heure où véritable volonté d'ouverture. Les Tunisiens qui s'apprêtent à se rendre aux urnes en cette année 1999 ont-ils des raisons d'espérer un changement ? Ben Ali est-il vraiment prêt pour le partage du pouvoir ? rien n'est moins sûr. Mais il faut compter avec la volonté populaire, comme nous le verrons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique, spéciale Zine El Abidine Ben Ali. Mais en attendant, vous pouvez évidemment d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI à la rubrique Les émissions ou sur le site archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre portable, votre téléphone, en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Olivier Raoul, Delphine Michaud, Alain Foucault et Sarah Magnin, nous vous donnons quant à nous rendez-vous samedi prochain, même fréquence pour la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Zine El Abidine Ben Ali. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.